Amen. Shalom à toutes et à tous. Merci de la part de Déborah et moi pour l'invitation pour revenir dans votre assemblée. Comme j'ai dit ce matin à Rémi, je suis un revenant après une nuit interrompue par nos filles qui sortaient faire la fête. Mais on se réjouit d'être avec vous ce matin. Et ce n'était pas la fête de Pentecôte qu'elle célébrait. Rémi a proposé que j'explique d'où on vient. Alors c'est plus difficile de dire d'où on vient que de dire où on va. Mais Déborah et moi, nous sommes britanniques et oui, pas bretons, mais britanniques. Je suis issu de parents juifs de Vienne, en Autriche. Je suis né à Manchester. Je suis l'aîné d'une fratrie de quatre, une sœur qui habite à Jérusalem, un frère qui habite au Luxembourg, une sœur qui habite à Londres, et Déborah et moi, on habite le canton de Vaud. Voilà. Et nous sommes missionnaires auprès de notre peuple. Nous sommes des juifs messianiques depuis longtemps et missionnaires depuis près de 30 ans, dont la plus grande partie dans le monde francophone, à Paris, et maintenant depuis bientôt 9 ans dans cette région. Et nous avons un appel très très simple en tant que juifs. Le Seigneur nous a appelés pour annoncer la bonne nouvelle de Yeshua, de Jésus, à notre peuple juif dispersé, toujours comme à l'époque de l'apôtre Paul, dans les quatre coins du monde. Alors, juste pour l'anecdote, on m'a demandé quelquefois dans l'église si j'étais un vrai juif avant ma conversion. Et je peux vous répondre avec toute sincérité que je ne l'étais pas, mais que je le suis maintenant. Parce que comme Rémi Rose Blanche m'a rappelé ce matin, la mission d'Israël, qui n'est pas encore tout à fait accomplie, c'est d'être une lumière aux nations. Et notre appel, c'est d'être une lumière aux nations pour leur apporter la lumière de Yeshua, de Jésus-Christ. Et bien que l'Église a commencé il y a 2000 ans avec une bande de Juifs qui ont annoncé l'Évangile aux Juifs à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du canton de Vaud, eh bien mon peuple, notre peuple, à Déborah et moi, reste toujours largement incroyant vis-à-vis de leur mission et de leur Messie. Mais ce matin, nous allons regarder le début de cette Église et nous allons regarder ce que la parole de Dieu dit à propos de la fête de Pentecôte. Alors, on va commencer maintenant avec les diapos. Et comme c'est le matin, comme on a fait la fête hier soir, je vais commencer avec un petit quiz pour nous réveiller. En quelle année était la première fête de Pentecôte? Alors voilà quelques propositions. 2500 avant Jésus-Christ, 1500, 586 avant Jésus-Christ, 33 de notre ère, 70, 1517, 1809 et 1957. Alors, quand était la première Pentecôte? Pardon? 1517? Ah, avant Jésus-Christ, tout à fait. Alors, c'est pour dire, bravo. Alors, pour les autres dates, 586, c'était quoi? À la destruction du temple à Jérusalem sous Nebuchadnezzar. Voilà, 33, l'année à peu près de la résurrection, 70, destruction du temple, 1517, la réforme sous Luther, on a célébré dans l'Église 500 ans de cette réforme, mais juste entre parenthèses, pas une très bonne nouvelle pour les Juifs en général. Mais ça, c'est un autre thème. 1809, c'est la naissance, bien sûr, d'Abraham Lincoln. Mais l'important, c'est le jour qu'il est né, c'est le même jour que le mien, qui est de 1100... Et ça, c'est 1957. Et je pense votre pasteur aussi, sauf erreur. Alors, vous connaissez maintenant mon anniversaire. Hein? Mais aujourd'hui, on ne célébrera pas mon anniversaire, mais la Pentecôte. Deuxième question, combien de fois les hommes devaient-ils se présenter devant l'Éternel chaque année? 0 fois, 1 fois, 3 fois, 7 fois, chaque mois, chaque dimanche, autre chose. 3 fois, exactement. 3 fois, c'était... dit dans la parole de la Torah que les hommes devaient se présenter 3 fois par an dans le lieu choisi par l'Éternel, dans le sanctuaire, 3 fois par année. Et ces 3 fois étaient les 3 fêtes pèlerines où les hommes juifs devaient monter, à l'époque de Jésus, c'était monter à Jérusalem, premièrement pour la Pâque, deuxièmement pour la Pentecôte, et troisièmement, pour la fête de Soukhot, la fête de Tabernacle. Et selon l'historien Joseph, la population de Jérusalem passait d'à peu près 200 000 à 1 million pendant ces grandes fêtes pèlerines. Et la fête de Pentecôte se déroule après la fête de Pâques, mais les foules qui sont venues pour la fête de la Pâque, beaucoup sont restés pour célébrer la fête de Pentecôte. Prochaine question. Alors là, la question va venir après la lecture. La première lecture, quelques versets qui sont dans l'Ancien Testament sur la fête de Pentecôte. Merci Pia. C'est toi qui vas lire ?
Tu compteras.
C'est Deutéronome chapitre 16 à partir du verset 9.
Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira, pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite, qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique.
Merci, Pia. Alors, selon Alors, la prochaine question. Le nom biblique de la fête. Alors, c'est un petit test au début en hébreu, parce que quand nous serons au ciel, on va tous parler en hébreu. Je sais qu'à Zurich, on pense que c'est le suisse-allemand qu'on va parler. Voilà. Alors, quel est-ce que vous savez le nom en hébreu de la fête ? Shavuot. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? En fait, c'est 3 de ces 4 noms dans la Bible. Parce que les noms veulent dire en hébreu la fête des semaines, Shavuot, Yom HaKatsir, fête de la moisson. Et c'était à la Pentecôte la moisson du froment, du blé. À Pâques, c'était la moisson de l'orge. Et puis, un autre nom, c'est fête des prémices. Et un nom qui est répandu dans la tradition juive, c'est Zeman Matan Toratenu, qui veut dire la saison de la réception de la Torah. mais c'est les trois premiers noms qui sont mentionnés dans la Bible. Je donne les références. Alors, pourquoi est-ce que les rabbins disent aussi que c'est la saison que Dieu a donné la Torah à Israël, la loi ? Eh bien, les rabbins comptent du jour du départ de l'Égypte, qui était le lendemain de la Pâque, 7 semaines pour venir à la Pentecôte. C'est ce que la Bible dit, il faut compter 7 semaines après le lendemain de la Pâque, du sabbat de la Pâque. Et c'est pour cela que la fête s'appelle la fête des semaines, ou en hébreu, Shavuot. Mais selon les rabbins, ils ont fait le calcul, qui est peut-être vrai, que c'est 7 semaines plus 1 jour, 50 jours, c'est le nom Pentecôte qui veut dire 50, eh bien c'est précisément 50 jours après la Pâque que Moïse est monté sur la montagne, le mont Sinaï, pour recevoir la Torah, la loi, les tables de la loi de la part de l'Éternel. Alors on ne peut pas être certain, la Bible ne le dit pas, mais dans Exode chapitre 19, juste avant que Moïse monte sur le montagne, il est écrit, c'était le deuxième mois, ce jour-là, le troisième mois, ce jour-là, et les rabbins pensent le troisième jour, le troisième mois, le premier jour, c'est 50 jours après la Pâque. Parce que la Pâque a commencé dans quel mois ? C'était le mois de Nissan. En hébreu, on dit Nissan. C'est facile pour les amateurs de voitures. Vous vous rappelez du Nissan. 14e jour du premier mois jusqu'au 3e, 4e jour du 3e mois. C'est à peu près 50 jours. Alors voilà le nom qui est connu surtout. C'est Shavuot qui veut dire la fête des semaines. Et c'est une fête agricole. Dans le texte qui a été lu de Deutéronome, c'est simplement des offrandes pour remercier l'Éternel pour sa provision. Et toutes les grandes fêtes de l'Éternel, c'est pour célébrer sa bonté, sa miséricorde, sa provision, sa protection. Ce sont des fêtes de l'Éternel. Et dans le livre de Lévitique, ce ne s'appelle pas des fêtes juives, mais les fêtes de l'Éternel. Parce que ces fêtes sont des fêtes qui s'appliquent non seulement à Israël, mais à tous ceux qui aiment l'Éternel. Alors, quand les apôtres sont venus à Jérusalem célébrer la Pentecôte ou Shavuot, à peu près 1500 ans après la première Pentecôte, ils ont été conduits par le Seigneur et nous allons maintenant avoir la deuxième lecture qui est Actes chapitre 2, une longue histoire qui se trouve du verset 1 à 40.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.
Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne.
En effet, David dit à propos de lui : « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. »
Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même : « Le Seigneur dit à mon Seigneur : assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit : « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. »
Merci. Alors, une question, peut-être une dernière question, peut-être pas. Qui était présent à Jérusalem à cette époque? Qui était la foule? Quels hommes représentaient toute cette foule? Alors, ce qu'on lit, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux venus de toutes les nations sous le ciel. Et quand on lit dans le texte, c'est écrit qu'il y a par exemple des Crétois, des Arabes. Ce ne sont pas des Crétois, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Juifs pieux qui vivent en Arabie, en Crète. C'était une foule de Juifs pieux. Ce n'étaient pas des Juifs comme moi je l'étais avant que je sois devenu un vrai Juif. Je n'étais pas pieux. Mais ici, il s'agit uniquement de Juifs pieux, parce que c'était uniquement les religieux qui montaient à Jérusalem fêter la fête, célébrer. Tout comme à Cossonay, c'est uniquement les chrétiens engagés qui viennent à l'église le dimanche. Et voilà que parmi ces Juifs pieux, il y avait aussi quelques prosélytes venus de Rome, c'est-à-dire des non-Juifs qui étaient convertis à l'époque au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais voilà une foule de milliers, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'hommes pieux qui sont venus à Jérusalem pour fêter le don de la Pentecôte, Shavuot. Alors, quel était le vrai miracle qui s'est déroulé ce jour-là? Alors, je sais, vous le savez tous, on a chanté, mais avant de cela, ça montre un peu la carte d'où venaient tous ces Juifs pieux rassemblés à Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, pas de train, pas de voiture. Ça prenait beaucoup de temps pour monter à Jérusalem à pied et parfois sur le dos d'un âne. Mais on lit dans verset 1, « Lorsque le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous rassemblés et au verset 4, ils furent remplis du Saint-Esprit. » Rappelons-nous que les rabbins célèbrent justement la veille de Pentecôte, ce week-end, toute la nuit, la lecture de la Torah pour célébrer et commémorer le don de la Torah, la loi écrite. Mais dans la Bible, ce n'est pas avant tout le don de la loi qui est célébré à Pentecôte, mais le don de l'Esprit de Dieu. Jérémie, chapitre 31, c'est un long texte où Dieu prophétise par la bouche du prophète Jérémie 7 siècles avant la venue de Jésus. Il prophétise uniquement par Jérémie à la maison d'Israël, la maison de Juda, et il promet une nouvelle alliance. Rappelons-nous que Jésus, quand il est venu 7 siècles plus tard, quand il a célébré son dernier repas, ce repas de la Pâque, juste avant sa crucifixion, la Pâque, il a parlé de la nouvelle alliance qui a été accomplie par le don de sa vie, son corps donné pour nous, son sang versé pour nous. Et voilà 7 siècles avant la venue de Jésus, voici ce que l'Éternel déclare. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Ça ne serait plus sur des tables de pierre. « Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans cette prophétie, il y a déjà une annonce pour Israël qu'il y aura une nouvelle alliance, pas comme celle donnée sur des tables de loi à Moïse. Mais ça ne serait plus une loi extérieure, mais intérieure. Ça ne serait plus une religion, mais une relation avec Dieu. Déborah et moi, nous avons des amis à Londres. Et lui, il a un bon nom juif, il s'appelle Steven Blumenthal. Et il a un bon métier juif. Non, il n'est pas avocat, il n'est pas docteur, il n'est pas banquier, il est psychanalyste freudien. Il est athée. Et lui, juif athée, comme beaucoup de juifs, même des juifs pratiquants, eh bien, il est marié avec une chrétienne protestante anglaise, une belle anglaise. Et un jour, elle m'a dit, mais c'est quoi juif pour Jésus? Je ne comprends pas. Et son mari, qui n'est pas croyant, dit, ben, ce sont des juifs qui croient en Jésus. Ils croient que Jésus est le Messie. Tu vois, chérie, le judaïsme, c'est une religion, mais le christianisme, c'est une relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est lui, l'athée juif, qui l'a annoncé à sa femme chrétienne. Mais un rappel que c'est une nouvelle alliance qui, au début, était annoncée uniquement pour le peuple d'Israël. Et rassemblée à Jérusalem, il y a 2000 ans, il n'y avait que des juifs pieux et quelques prosélytes. C'était une fête de prémices. C'est ce qu'on lit dans la Torah. La Pentecôte, c'est une fête de prémices. Mais là, la moisson n'était pas une moisson agricole, c'était une moisson spirituelle. L'apôtre Paul parle de lui-même et des disciples comme étant les prémices du don de l'Esprit de Dieu. Ce jour-là, à la Pentecôte, on lit au verset 41 qu'il y avait à peu près 3000 hommes pieux juifs qui ont reçu le don du Saint-Esprit. On aimerait bien voir des jours de conversion, de réveil dans l'église ou dans la ville de Cossonay où 3000 dans un seul jour viennent au Seigneur. Et cette fête de prémices était quelque part le renversement de la tour de Babel. Rappelez-vous quand l'homme a voulu construire un tour pour essayer d'atteindre Dieu, de prendre son nom. Et aujourd'hui, l'idolâtrie, en premier, c'est de prendre le nom de Dieu pour soi-même, de se faire son propre Dieu. Et l'homme, à cette époque, il parlait qu'une seule langue, on lit dans Genèse 11. Et Dieu a voulu casser cet orgueil, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dispersé les peuples avec beaucoup de langues. Et le miracle principal de la Pentecôte, ce n'est pas de parler dans une langue divine. L'apôtre Paul en parle de cette langue divine dans un autre texte des Écritures. Mais ici, il s'agit du miracle que chacun s'entend parler dans sa propre langue. Acte 2, 6 à 8. Au bruit qui se produisait, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Ne sont-ils pas des Galiléens ?» C'est-à-dire des Juifs laïcs, des Juifs paysans du nord d'Israël. D'abord, ils ne sont pas des Juifs pieux comme nous, et voilà qu'on les entend parler dans nos langues. Et quelles étaient ces langues des Juifs? Alors, il n'y avait pas des Juifs britanniques à l'époque, comme Déborah et moi, mais il y a des Juifs qui parlaient l'arabe parce qu'ils habitaient en Arabie. Il y avait des Juifs qui parlaient le farsi parce qu'ils habitaient en Iran. Il y avait des Juifs de Cappadoce qui parlaient, je ne sais pas quoi, l'araméen ou le turc de l'époque, des Juifs qui venaient de la Grèce, de Rome, qui parlaient le latin. Et voilà, tous entendaient ses disciples parler dans leur propre langue. Alors je me suis dit, le miracle, est-ce que c'était que les apôtres arrivaient à parler miraculeusement une langue comme l'arabe qu'ils n'avaient jamais appris? Ou est-ce que le miracle, c'était que ces Juifs venus d'Arabie et de la Libye entendaient miraculeusement comme si ses disciples parler dans leur langue. Si vous avez la réponse, venez me le donner après le culte. Mais le grand miracle, c'était que chacun entendait l'autre parler dans sa propre langue. Et parler de quoi? Nous les entendons parler des merveilles de Dieu. L'importance, la signification de la fête de Shavuot, c'était de rassembler le peuple de Dieu divisé par les langues. Et ce que Dieu fait par son esprit en Jésus-Christ, c'est de rassembler des personnes de toutes sortes de langues, mais non seulement des langues verbales, mais des langues culturelles, des langues économiques, des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons géographiques, économiques, matériels, sociaux, et ils nous rassemblent en Christ. Le mystère dont parle l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, ce mystère, déclare-t-il, c'est que les païens font partie du même corps en Jésus-Christ. Le même corps que qui ? Le même corps que les Juifs en Jésus-Christ. Vous savez, aussi, on m'a demandé si j'étais un vrai Juif avant ma conversion. On a aussi dit que depuis ma conversion, je n'étais plus Juif. Parce qu'il est écrit qu'il y a ni juif, ni grec. Et un monsieur m'a dit cela après un culte où j'ai prêché en Angleterre. Et moi, j'ai dit, monsieur, vous n'êtes plus un homme. Parce qu'il est écrit, il n'y a ni homme, ni femme. Il n'avait pas compris que la mur de séparation entre juifs et gentils, vous êtes des gentils des nations, et en Christ, vous êtes encore plus gentil qu'avant, je suppose. Il y avait la division entre hommes et femmes. Vous allez dans des synagogues orthodoxes aujourd'hui, et les hommes et les femmes sont assis séparément. Quand nous habitions, Déborah et moi, à Paris, et nous allions dans une église, dans un quartier avec beaucoup d'Arabes, les dimanches matins qu'on allait au culte, on voyait les hommes musulmans, tous ensemble entre hommes. Et voilà que nous sommes unis en Christ, quel que soit notre arrière-plan. Et la beauté de l'Église, c'est que des juifs et des non-juifs, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des handicapés, des aveugles et des bienveillants, voyants, on est tous unis en Christ. Et l'unité, c'est par le don du Saint-Esprit. C'est un miracle de Dieu qui a commencé à s'accomplir au 1500e Pentecôte, il y a plus de, ou bientôt, 2000 ans. Alors, le vrai message de ce miracle à Pentecôte, c'est d'apporter l'unité entre les frères et sœurs. Alors, c'est d'apporter l'unité, mais il y a aussi le fait que c'était un accomplissement des prophéties divines. Alors, je vous lis un texte, Actes 2, 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et ce texte est un texte que l'Église a souvent utilisé pour dire « Voilà, les Juifs ont crucifié Jésus. » Mais c'est une mécompréhension de ce texte. Que toute la maison d'Israël le sache. Toute la maison d'Israël n'était pas rassemblée à Jérusalem ce jour-là. C'était une foule d'entre les Juifs pieux. Mais les Juifs religieux n'étaient pas là. Ce message était donné par des juifs messianiques. Les femmes n'étaient pas là. Alors, ce que Pierre est en train d'annoncer, c'est comme si je vous annonçais que toute la ville de Cossonay sache que ici dans l'Église, nous louons le Seigneur Jésus-Christ. Il veut, Pierre, que toute la maison d'Israël sache que c'est Jésus qui a été crucifié par ces hommes pieux qui étaient là à Pâques, il y a 50 jours en arrière. Eh bien, c'est ce Jésus qui est le Seigneur et le Messie d'Israël. Et voilà que Pierre ne condamne pas son peuple, mais il annonce la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que les hommes doivent comprendre que c'était le dessein de Dieu que Jésus soit crucifié pour nos péchés. Ce n'était pas un accident, c'était le dessein de Dieu. Et sans la crucifixion, il n'y aura pas de pardon de péché pour chacun de nous. Alors plutôt que de blâmer les Juifs pour la crucifixion, quelque part, on devrait remercier Dieu qu'à travers la désobéissance et le péché de certains Juifs de l'époque, Dieu a accompli son dessein. Son dessein annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament que le Messie devait souffrir et mourir pour notre péché. Mais regardez ce texte qui parle pas avant tout de la mort de Jésus, mais qui parle de la résurrection. Verset 24, vous l'avez fait mourir, verset 23, Dieu l'a ressuscité des morts. Et nous célébrons un Dieu qui est vivant, pas un Dieu qui est mort. Même les rabbins disent que cette vie n'est que le vestibule pour le monde à venir. Les pharisiens de l'époque croyaient à la résurrection des morts. Et voilà que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et voilà, à travers le Saint-Esprit qui a été déversé il y a 2000 ans et qui déverse aujourd'hui sur nous qui croyons, eh bien, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Jésus qui a dit, « Je vais auprès du Père préparer une place pour vous. » Cette place pour nous est déjà préparée. Notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Alors, le vrai message, la vraie mission de la Pentecôte, c'est que nous soyons un devant Dieu en Christ et que nous puissions montrer l'amour et l'unité de Dieu en Christ. Jésus qui a dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et prions à cette période de Pentecôte pour que nous puissions vivre dans l'obéissance et l'amour, l'humilité de se soumettre les uns avec les autres afin que nous nous aimions et que le monde puisse voir que nous sommes ses disciples. C'est le message de la Pentecôte, mais c'est aussi l'annonce d'une mission que Dieu nous confie à chacun de nous. Et je termine avec ce message qui a été dilué, si je peux dire, dans la traduction qui a été lue, parce que c'est écrit en hébreu, en grec, c'est la traduction du mot très courant en hébreu, teshuvah, en grec, repentez-vous. Et ce message que nous avons annoncé tout aussi bien aux Juifs qu'aux gentils de Cossonay, c'est qu'il faut se repentir. Chacun de vous, chacun de nos amis, de nos familles qui ne croient pas en Jésus, il y a toujours ce message, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un jour, un rabbin est venu me poser une question simple. Qu'est-ce que vous avez avec Jésus que nous n'avons pas dans le judaïsme ? J'ai répondu deux choses. Le don du Saint-Esprit et l'assurance de la vie éternelle. Notre message que nous nous adressons à des juifs ou des non-juifs, est toujours le même message. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans le judaïsme, on prie chaque année à Yom Kippour pour le pardon du péché. Mais on n'a jamais l'assurance parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Et nous savons que Jésus, qui est venu à la Pâque comme l'agneau de Dieu, a versé son esprit sur son peuple à Jérusalem cette semaine et un jour plus tard, afin que tous ceux qui se tournent vers Jésus ont la vie et la vie éternelle. Prions. Seigneur, merci que tu es venu pour accomplir la Torah. Comme tu le dis toi-même, Seigneur Jésus, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Et merci pour ce jour merveilleux, il y a 2000 ans, que tu, comme tu l'as promis, tu as versé ton esprit sur cette immense foule à Jérusalem. Et merci, Seigneur, que tu as versé ton esprit sur toute nation, tout peuple, sur chacun de nous, afin que quiconque fait appel au nom de Jésus-Christ soit sauvé. Amen. Amen.